by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 10 octobre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois trois invités. Emmanuel Urien, bonjour Emmanuel.
Bonjour Claire.
Manu Cause, bonjour Manu.
Bonjour.
Et Chrysostome Gouriot, bonjour Chrysostome.
Bonjour Claire.
Alors, nous allons parler donc des deux recueils de nouvelles. Alors, pour Emmanuel et Manu, il s'agit de la nouvelle « Du temps de cerveau disponible », éditée aux éditions Inuit dans la collection « Quelqu'un m'a dit ». Une nouvelle écrite à quatre mains, ils vont nous en parler tout à l'heure. Et puis, pour Chrysostome, c'est la nouvelle intitulée « Une fellation quasi nulle », éditée également aux éditions Inuit dans la même collection « Quelqu'un m'a dit ». Alors, une petite info avant de commencer à parler de ces deux recueil. Pour vous signaler que le 18 et 19 octobre prochain à Toulouse, à la librairie La Renaissance, eh bien la librairie va fêter ses 70 ans et il y aura plein d'invités, n'est-ce pas Emmanuel ? Plein d'écrivains.
Oui, plein d'auteurs de Toulouse et peut-être d'ailleurs qui vont venir signer leurs livres et discuter avec le public qui sera évidemment très nombreux.
Ah oui, j'imagine.
On vous attend.
Voilà, c'est donc sur les deux journées, samedi, toute la journée.
Oui, alors je n'ai pas les détails des horaires en tête, mais je pense que ça va être globalement toute la journée, oui.
Bon, donc voilà, la petite info.
Bon. Page à page, Claire Ambille.
Pou-pou-pidou.
Merci à Edgar qui fait la technique de cette émission. Alors justement, je parlais de la collection donc des éditions Inuit. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Sylvie, qui peut-être nous écoute d'ailleurs, des éditions Inuit. Et justement, la collection Quelqu'un m'a dit, donc je voulais juste dire quelques mots au sujet de cette collection. Alors au commencement, il y a une phrase, la phrase, celle qui s'installe dans la mémoire de chacun et qui résume à elle seule un état de nos sociétés. Ensuite, il y a l'écrivain ou les écrivains, comme pour Manu et Emmanuel, et que la phrase interpelle et qui pousse l'hypothèse à son maximum et dessine le monde qu'elle annonce. Et enfin, eh bien, c'est la fiction, une SF sociale, une nouvelle surréaliste, décalée, pleine d'humour et teintée cependant de réalité aussi. On va le voir. Alors, si on commence par Chrysostome, on va découvrir quelle phrase l'a interpellée, mais avant tout, on va peut-être présenter l'auteur. Donc, Chrysostome, vous êtes diplômé en philosophie.
Oui, tout à fait. J'ai une maîtrise.
Ah, vous maîtrisez la philosophie.
Je maîtrise un peu.
Bah, oui.
En fait, ça fait quelques années que j'ai arrêté. Enfin, ça a été une drogue pendant très très longtemps. Donc,
oui, mais
j'essaie de décrocher
avec
un peu.
Avec la philosophie, je pense qu'on reste drogué à vie. Hein.
Oui, c'est un peu ce qu'on me reproche quand j'écris des livres. Il paraît qu'il y a des références un peu partout et que ça reste incompréhensible pour mes lecteurs.
Non, moi j'aime bien en tout cas. Personnellement, ça me va très bien. Et puis, vous êtes interprète en langue des signes française.
Oui, c'est ça. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop en parler à la radio parce que c'est pas tellement adapté comme support.
Non, tout à fait. C'est plutôt visuel et là, la radio, ça ne s'y prête pas. Et puis, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, alors parmi lesquels on peut citer Le Crépuscule des Guignols.
Voilà, un livre teinté de philosophie dont on m'a dit qu'on comprenait rien, sauf que c'est pas vrai en fait. On peut le lire si on a absolument aucune notion philo.
Ah.
Sauf si on veut entamer des études de philosophie. Là, je le conseille à tous les élèves de terminale qui trouveraient que Spinoza, Kant, Platon, c'est très abscon. Là, on comprendra que finalement la philosophie c'est très concret.
Très bien. Ensuite, Le Dolmen des Dieux. Alors ça, c'est dans la collection Le Poulpe.
Oui, formidable. Là, ça a été un vrai rêve de gosse qui se réalisait.
Et puis encore des Flicosophes.
Oui, là, j'ai beaucoup réglé mes comptes avec la philo aussi.
Et puis, ou encore, Des Muses et des Mondes énigmatiques.
Alors ça, c'est un recueil de nouvelles publié il y a très longtemps chez De Noël. On était une quinzaine de jeunes auteurs à avoir remporté un concours. Donc voilà, il y a une de mes nouvelles au milieu.
D'accord, donc je suis aux éditions de Noël. Alors aujourd'hui, on va parler de votre nouvelle, Une fellation quasi nulle, donc éditée aux éditions Inuit. Et alors c'est une fable d'anticipation sociale, pleine d'humour, comme je l'ai dit, et qui a été inspirée donc par une phrase, la phrase, celle de Rachida Dati, prononcée lors d'une interview sur Canal+, et que le lecteur d'ailleurs peut découvrir à la fin du petit livre.
Oui, c'est l'intérêt de cette collection aussi, qui est assez amusante, et puis dans sa globalité assez intéressante, c'est de retrouver à la fin de chaque nouvelle la citation et le contexte dans lequel elle s'insère.
Tout à fait. Alors justement, je voudrais vous parler du petit format. Alors le format pocket de la collection, quelqu'un m'a dit, je trouve qu'il est vraiment super parce qu'on peut le transporter partout très facilement. Et comme ça, on peut lire dans les salles d'attente des médecins, enfin, ou d'autres salles d'attente, dans les transports. Moi, je trouve ça vraiment très pratique. On ne transporte pas un gros pavé. Et donc, voilà, je le conseille vraiment à nos auditeurs. Voilà, c'est le format pocket me plaît. Alors, donc, justement, cette nouvelle, alors l'histoire se passe à Toulouse en 2037, on fait un bond de 25 ans.
Mmh. Alors, juste, oui. Là, c'est mon éditeur, enfin notre éditrice, qui a fait le quatrième de couverture et qui a noté que ça se passait à Toulouse. En fait, il n'y a pas de localisation précise dans l'histoire.
Hein.
Ça peut se dérouler un peu dans n'importe quelle ville.
Oui, tout à fait. Oui, oui,
mais c'est bien que ça se passe à Toulouse, finalement.
Oui, bah oui. Et puis, en plus, cette nouvelle, vous le dites au début du recueil ou à la fin, je ne sais plus, vous dites que cette nouvelle a été presque entièrement écrite dans un bar de Toulouse.
Oui, j'ai pas de bureau, j'ai pas d'endroit à moi, contrairement à certains qui ont la chance de pouvoir écrire dans des lieux privilégiés et
luxueux.
Et luxueux, tout à fait. J'ai pas de bureau pour écrire, donc j'ai toujours mon ordinateur dans mon sac et je me trimballe un peu partout pour écrire. Et là, j'avais envie de me poser dans. Je me suis posé dans ce bar, donc le Fuego, pour commencer cette nouvelle. Et puis je m'y suis trouvé bien, donc je l'ai écrite quasiment intégralement là.
D'accord, mais vous n'avez pas de chez vous non plus.
Si, j'ai un chez moi, mais pas de pièce dans laquelle je puisse
d'accord.
m'enfermer pour travailler.
Pour travailler, d'accord. Alors, ça se passe donc dans une ville, on va dire, mais enfin bon, Toulouse, si on a envie. Et en 2037, donc en 25 ans de pouvoir, la gauche a transformé la société en une société rêvée, idéale, on pourrait même dire une i-société. Et alors on va citer quelques exemples. Alors la retraite à 55 ans, un taux de chômage tellement bas que tout le monde a l'impression de travailler. Avec la Chine et les États-Unis, le pays fait partie des nations les plus riches. Le tabac est de nouveau autorisé dans les lieux publics. Le taux de criminalité est au plus bas. Il y a même des shoot rooms qui sont créés pour les drogués dits sévères et des coffee shops. Et puis les maisons closes ont réouvert leurs portes. Alors là, ça fait un monde assez
novateur. Oui, c'est très rose, hein, j'ai envie de dire.
oui.
Sauf qu'on s'aperçoit que finalement...
Il y a un mais, parce que dans toutes les histoires, il y a un mais, forcément. Alors, pour le parti radical chrétien, allié au gouvernement, a obtenu donc la promulgation de certaines lois, alors la plupart sont ineptes, dont celle d'interdire la fellation, qu'elle soit publique et privée,
voilà.
Sous couvert de salubrité publique, parce que d'après eux, elle augmenterait le risque, enfin le nombre d'infarctus.
Voilà. Alors ça, c'est une étude tout à fait réelle. Hein.
Ah bon ?
On a travaillé en laboratoire avec de nombreux chercheurs pour arriver à ces données-là.
D'accord, donc il y a vraiment de la réalité. Il y a vraiment de la réalité dans
cette
nouvelle.
Oui, j'ai donné de moi hein, pour arriver à ces résultats.
J'imagine. Alors, il y a des drones de surveillance qui veillent au respect de cette loi, avec l'aide de capteurs infrarouges reliés au centre de contrôle de la décence. Et puis, alors, pour ceux qui se font prendre en flagrant délit, eh bien, c'est le centre de rétention sanitaire qui les attend. Et puis, alors, la délation est autorisée et même récompensée avec vidéo comme pièce à conviction.
Voilà.
Donc, on est de nouveau, enfin, on est dans un monde de délation où la délation, vraiment...
Oui, qui est finalement pas si éloignée d'une autre.
Oui, je l'ai dit. Hein, ces nouvelles sont des fictions d'anticipation sociale, mais elles sont teintées d'une certaine réalité hein, dans certains domaines.
Oui, je fais juste que développer...
Oui, pousser au maximum l'hypothèse.
Voilà, exactement.
Tout à fait. Alors, dans cette société rêvée, entre guillemets, il y a aussi le sport. Alors, avec des matchs qui sont retransmis tous les soirs à 20h sur 248 chaînes. Et bah oui, parce que parmi les 3092 qui existent.
Voilà, bah, du pain et des jeux.
Forcément. Et alors, les matchs ne se gagnent plus au nombre de buts marqués, mais se gagnent au vote du public.
Bah, là, c'est pareil, c'est la télé-réalité poussée à son extrême.
Tout à fait. Donc, même pour les matchs, alors, pour les sportifs... C'est triste. Et alors le narrateur, lui, refuse complètement cette société soi-disant idéale. Et alors, quand il sort, il a l'impression d'être chez son médecin, parce que alors oui, tout est propre, tout est sain, tout est silencieux. Il n'y a plus de mégots ou de chewing-gum sur les trottoirs. Les véhicules sont électriques et silencieux. L'éclairage est solaire. Et on peut même voir sur les façades ravalées des immenses panneaux publicitaires numériques avec, par exemple, eh bien, Georges Clooney et sa fameuse tasse de café.
Relifté, Georges Clooney dans 25 ans, relifté.
Relifté. Et puis, il y a aussi, alors, les tours et les bars des banlieues ont été redécorés et sont installés en centre-ville. Elles n'ont pas du tout été détruites.
Non, bah, enfin, on a rasé un peu les banlieues pour que ça fasse plus propre. Et puis, on a dressé des tours en centre-ville.
Autour. Voilà, enfin, au milieu. Et puis, on a, voilà. Alors, le narrateur, lui, est un ancien libraire qui a été contraint de mettre la clé sous la porte. On va voir pourquoi.
Ouais, la toute ressemblance avec mon passé est absolument fortuite.
Ah oui, c'est vrai que vous avez été libraire avant d'être interprète en langue des
signes.
Tout à fait. Et oui, j'avais omis de le dire. Et un soir de beuverie ordinaire, je cite, hein, c'est dans le texte, le narrateur et son ami et voisin de palier d'ailleurs, qui s'appelle Mouloud, ont une idée formidable, celle de créer un lieu convivial, un endroit avec des livres, du bon vin qui n'aurait pas goût de banga, et des filles. Alors, pour les livres, Mouloud en a des cartons pleins. Ce n'est pas un problème. Et puis vous, enfin, le narrateur, je tiens, a encore des livres qu'il a sauvés de sa librairie. Pour le vin, ça ne pose pas de problème non plus. Reste pour trouver les filles, des filles qui acceptent eh bien, ce poste à risque hein, à cause des drones qui surveillent et puis des éventuelles
oui,
délations.
Oui, parce que la prostitution, là aussi, a été légalisée. On a rouvert des maisons closes, etc.
Donc,
mais donc, certaines pratiques restent prohibées.
Ah oui,
il faut donc trouver
oui,
quelques
fait.
Militants et militantes qui soient prêts à venir.
Risquer,
de leur personne.
Oui, tout à fait. Et alors, le narrateur se souvient de Laurence, une hôtesse professionnelle qu'il avait rencontrée et avec qui il avait beaucoup discuté un soir de solitude. Et alors, ainsi va naître la fumerie, bar, librairie et bordel à tendance libertaire et libertine.
Voilà.
Alors, elle est installée dans quatre grandes caves qui sont attenantes à celles du narrateur et de Mouloud. D'ailleurs, le narrateur n'est pas cité, hein, n'est pas nommé. Hein.
Il s'appelle Benoît Sévrinck. Toute ressemblance avec un auteur toulousain est là encore fortuite.
Oh, tout à fait, oui. Alors, donc, le narrateur... Oui, donc je disais... Je suis perturbée là maintenant, Chrysostome. Alors, elle est installée, cette fumerie, dans quatre grandes caves. Et avec un superbe comptoir en zinc, comme on n'en fait plus. Et puis, bien sûr, beaucoup de livres, de vin, on peut y venir donc prendre du bon temps, se faire plaisir et donc c'est un véritable succès. Alors ça ouvre de 22h à 4h du matin et alors ça fait salle pleine tous les soirs. On voit que c'est une affaire qui
Oui, ben on sent que dans cette société totalement plate où rien ne dépasse, mais les gens ont besoin d'endroits où ils puissent se retrouver et finalement s'exprimer et dévoiler leur véritable personnalité.
Oui, puis avec des livres aussi, parce que comme on le disait, enfin comme on l'a pas encore dit, les livres n'ont pas disparu, ils ont simplement, on a simplement arrêté d'en fabriquer, car le gouvernement a déclaré la mort des livres en version papier.
Voilà, bah, c'est-à-dire que le progrès technique pour le progrès technique est encouragé, c'est-à-dire que les livres ne disparaissent pas, on en met quelques-uns à l'index parce que bon, ils pourraient donner des idées un peu trop pernicieuses aux gens.
Des livres subversifs, dits
voilà,
subversifs.
Exactement, et par contre, bah, on encourage les tablettes et les liseuses et ce genre de choses. Donc toutes les subventions qui sont données pour l'édition papier se retrouvent finalement dans l'édition électronique.
Alors, cette fumerie donc, a toujours quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire le risque d'avoir une descente de journaliste ou de police qui se fait un soir ou une nuit. Alors, il y a des personnages sympathiques à la fumerie, comme Sébastien, ce colosse de 2,3 m qui surveille l'entrée.
Oui, Sébastien Jambron. Là aussi, toute ressemblance avec un auteur bordelais serait fortuite.
D'accord. Le narrateur est Mouloud, donc, bien sûr, également. Et puis Laurence, l'hôtesse professionnelle. Et puis ses copines qu'elle a ramenées avec elle.
Voilà, parce que et finalement, puis, on trouve des militants et des militantes quand même. Dans cette
tout
société.
À fait, qui sont prêtes à se risquer. Et puis, il y a Bruno aussi, le travesti.
Hervé.
Ah, pardon. Hervé.
Hervé, le, la, travesti, on
je,
sait
je
pas bien.
Un peu, je mélange un peu tous les prénoms, là. Hein. Hervé, le, la, travesti, voilà, tout à fait. Alors, il est même prévu aussi, à la Fumerie, d'inviter une fois par semaine des auteurs pour parler de leurs livres.
Voilà.
C'est un beau projet.
Bon, là, là aussi, c'est un peu compliqué, parce que souvent, c'est des auteurs subversifs, donc c'est toujours des opérations un peu délicates.
Oui. Et puis donc alors c'est donc c'est, la Fumerie c'est un espace de liberté, un, l'endroit le plus vivant de la ville. Mais alors la suite de la nouvelle ne sera pas dévoilée ici au lecteur de la découvrir en la lisant. Et puis alors moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est une nouvelle avec beaucoup de clins d'œil à des auteurs ben, de notre région. Hein, vous en avez cité quelques-uns. Je voudrais citer Mouloud Akhouche. Manu va encore me dire, tu parles encore de Mouloud, ah, ouais. Mais bon.
On parle beaucoup de
et Laurence Bieberfeld.
Pardon.
Et Laurence Bieberfeld.
Et Laurence Bieberfeld.
Ouais, Laurence c'était elle.
D'accord. Et puis beaucoup d'humour aussi avec donc des sigles et puis des écrivains d'hier et d'aujourd'hui qui sont totalement rebaptisés.
Tout à fait.
Et puis ou encore un clin d'œil. Alors vous me le disiez avant l'émission. Un peu par hasard, mais un clin d'œil quand même à justement la nouvelle de Manukos et d'Emmanuel Urien, du temps de cerveau disponible, qui est cité. Et puis, donc, c'est une nouvelle vraiment où l'on sourit à chaque page et ça fait beaucoup de bien. Merci Chrysostome. Alors, j'imagine que l'écriture de cette nouvelle vous a beaucoup amusé.
Oui, ouais, évidemment. Oui, oui pousser à l'extrême tout, enfin, le développement de la société telle qu'on la trouve aujourd'hui, c'était assez jouissif.
Oui, et ça, ça vous donne envie, je pense que vous avez envie d'une manière naturelle à écrire d'autres,
oui,
vous avez d'autres projets d'écriture.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis j'aimerais bien continuer à écrire des nouvelles parce que c'est un
format
bah, roman et nouvelle, mais la nouvelle c'était, j'écris rarement sous ce format-là. Et,
vous aviez écrit quand même des muses et
oui, oui, il y avait cette nouvelle mais qui datait d'il y a longtemps et arriver à condenser justement sur un petit format une histoire comme celle-là, arriver à en tirer tout le sucre et à faire en sorte que ce soit intéressant, c'était vraiment un très très bon exercice. J'ai pris énormément, énormément de plaisir à écrire ce texte-là. Bah, oui.
Non, en tant que lectrice, j'ai eu énormément de plaisir à la lire.
Merci, bah, j'espère que les lecteurs auront autant de plaisir.
Mais je n'en doute pas, je n'en doute pas du tout. Alors maintenant, je vais me tourner vers... Donc merci, Chrysostome.
Merci.
Alors je vais me tourner vers Emmanuel Urien et Manukos donc pour parler de leur nouvelle à eux deux qu'ils ont écrite donc à quatre mains qui s'appelle Du temps de cerveau disponible. Je le rappelle, publié aux éditions Inuit dans la collection Quelqu'un m'a dit. Donc c'est une première que vous écrivez comme ça, une nouvelle à quatre mains ?
Oula, non.
Non. J'aime bien, ensemble, hein, un nom.
On peut le mettre ça à la maison, on travaille beaucoup pour pouvoir parler en même temps.
On a répété, oui.
D'accord. C'est... Alors,
pour... on a écrit déjà plein de petites nouvelles ensemble pour la radio. Il y a... bon, ça remonte à quelques années. Et puis, on a écrit du théâtre ensemble. On a écrit...
des exercices de développement personnel pour mal élever ses enfants aussi ensemble.
Mais c'est la première fois chez Inuit, en tout cas.
Chez Inuit, oui.
Dans cette collection-là, de Quelqu'un m'a dit.
On a rencontré, enfin, on connaît les gens d'Inuit depuis longtemps parce que les nouvelles d'Emmanuel, certaines nouvelles d'Emmanuel, ils sont parues.
Oui, tout à fait.
Et ils nous ont parlé de cette collection, donc Quelqu'un m'a dit, avec cette idée qu'on part d'une phrase politique célèbre et qu'on développe ce qu'elle véhicule. Et du coup, on s'est dit, tiens, faisons quelque chose.
Et alors justement, la phrase qui vous a interpellé et qui a donné eh bien, cette nouvelle, c'est celle prononcée par Patrick Lelay, alors PDG de TF1, lors d'un entretien et que le lecteur pourra lire à la fin de la nouvelle.
Oui, c'est ça. En gros, il expliquait qu'il utilisait le temps de cerveau disponible des gens pour leur vendre de la publicité.
Ciblée, voilà, enfin, publicité pour que ça.
C'est une
ça
phrase pour un directeur de chaîne télé qui était assez intéressante, il faut le dire,
qui a
bien, bien marché comme phrase.
Donc, qui fait réagir, forcément.
Voilà, qui fait bien réagir et puis dans laquelle on peut mettre plein de choses. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a un peu sauté sur l'occasion, elle nous plaisait bien tous les deux, cette phrase.
Et vous avez mis plein de choses dans cette nouvelle. Alors, on est transporté, ou plutôt, je dirais, téléporté dans un monde du 22e siècle. Et dans un monde où tout citoyen a un transem implanté dans le crâne. Alors, il faut comprendre un transmetteur émotionnel et qui lui diffuse en permanence des messages et des publicités ciblées. Directement sur la rétine, en plus.
Et, la capacité à ressentir des émotions en même temps, oui, tout à fait.
Oui,
parce
voilà.
C'est l'idée qu'on envoie des émotions pour pouvoir vendre derrière des choses.
Et donc, même la nourriture, alors, est ciblée hein, selon la géolocalisation, le profil psychologique ou même les pensées du moment du citoyen. Et elle s'absorbe par intraveineuse.
Oui, on le découvre peu à peu, oui, oui tout à fait. Ouais. C'est,
ah, mais il faut en dire un petit peu quand même.
Ah hein, oui, tout à fait. Non, non, mais c'est pas du tout. Hein. Oui, oui.
Oui, enfin, on découvre, voilà, que, voilà, dire, au fil de la lecture,
besoin,
voilà, on s'aperçoit que...
Le moindre désir est comblé immédiatement, voilà. Et tout est fait, oui, pour, que,
et d'autant
pour qu'il soit
plus
comblé.
Que les besoins sont eux-mêmes plus ou moins créés par... par justement ces transmetteurs émotionnels. Donc,
oui, donc
voilà,
en fait,
on crée à la fois
vicieux,
le besoin,
hein,
et la satisfaction.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, il y a aussi... Les câlins amoureux sont des connexions charnelles. Alors, c'est un romantisme...
C'est pas une société très romantique.
Ah non, pas du tout. Hein, ça fait peur.
Le romantisme,
hein.
Ça vend pas très très bien, quoi.
Non, c'est... voilà, ça se vend pas, ça rapporte pas, c'est pas bon.
Sauf pour tout un monde d'évasion.
Alors, un clignement de paupières suffit à répondre aux messages diffusés donc sur la rétine des citoyens. Et il suffit de fermer les yeux pour arrêter le flux de toutes ces publicités ciblées. Et alors, on obtient aussi des crédits quand on prend le temps de répondre à des offres publicitaires et qui permettent d'acheter des émotions agréables. Alors, le narrateur, on va le voir, qui s'appelle Burberry. Alors lui, par exemple, il peut acheter une émotion agréable pour lui. C'est par exemple une geisha qui récite un haïku dans la lumière du soir.
Moi, ça me laisse rêveur à chaque fois. Hein. Je l'ai dans ma tête et tout. Ouais, c'est,
ah oui.
C'est une belle émotion.
Ah donc, Manu, c'est une... Voilà, c'est toi qui a...
Ah non, c'est peut-être Emmanuel qui a ce genre d'émotion à transmettre. Je sais pas, c'est...
On n'a jamais bien su d'où venaient les images quand on a écrit.
De geisha qui récite un haïku. Alors, les autres sont virtuels aussi. Les gestes aussi, pardon, sont virtuels aussi. On parle d'une bourrade électronique d'un de ses collègues.
Oui, un POC. Un POC sur Facebook, oui, voilà. Non, je parle à des gens, je vois dans l'œil de tous les autres.
Je ne suis pas sur Facebook, les réseaux sociaux, voilà. Pas du tout. J'ai trop peur de ce que ça peut donner.
Ah, oui.
Et une petite question, vous avez lu chacun la nouvelle de...
Non,
de,
moi,
je
n'ai pas le temps à perdre avec... alors oui, alors non seulement on a lu Chrysostome, mais en plus on a adoré.
Il a même fallu, pour pouvoir la lire, que j'aille les harceler pour qu'ils me filent un bouquin. Et c'est très très bien.
Alors, cette nouvelle, donc, écrite à la première personne du singulier, le narrateur, donc, s'appelle Burberry, et il nous emmène, donc, dans un monde futuriste, totalement, donc, programmé et ordonné en classes, et puis surtout complètement déshumanisé. C'est un monde déshumanisé, en quelque sorte.
Oui, les échanges se font justement via ce transem, via des images, des pulsions électroniques.
Tout est devenu commercial, en fait. Toute relation humaine est devenue objet de transactions commerciales.
Il n'y a pas de vraie communication.
Exactement.
Alors, il est marié à Candia, avec un K, et avec qui il vit depuis 8 ans. Et puis, alors, même les émotions donc, du visage sont virtuelles, alors, grâce au transem, justement. Et ainsi, on peut dire « son compliment me va droit au transem ».
Voilà.
Ça c'est une expression qui m'a fait beaucoup sourire. C'est enfin un sourire et à la fois enfin c'est inquiétant hein, aussi.
Mais ça me faisait
ça
beaucoup
fait
penser
peur, hein.
aux lunettes Google, à des choses comme ça, c'est-à-dire
oui.
des technologies qui existent déjà.
Mais oui,
il y a plein de choses déjà.
C'est teinté de réalité, hein, comme voilà. J'ai dit au début de l'émission. Hein, ces nouvelles sont teintées de réalité. Alors il existe aussi quand même un filtre qui s'appelle Jardin Secret. J'aime bien l'appellation et qui permet de ne pas transmettre justement certaines émotions, par exemple à sa moitié.
Mmh, tout à fait, avoir encore une vie privée.
Voilà, une petite
même
vie
si on paie pour l'avoir.
Au sein de. Voilà. Et alors, le travail des citoyens de ce monde est de 4 heures par semaine. Le reste du temps, ils restent chez eux.
Ben oui, comme ça, ils ont du temps
pour consommer, voilà. Mais il faut quand même qu'ils soient un petit peu productifs pour pouvoir acheter ce qu'on leur vend, quoi.
Et oui. Alors, on se déplace en navette. Et alors, on peut aller de Singapour à Mexico en quelques heures.
Ou même plus rapidement que ça, je crois.
Ah oui,
c'est quelques...
Quelques minutes.
C'est quelques minutes, oui. C'est un trajet d'une vingtaine de minutes.
Mmh. Ouais. Je ne sais pas si on l'a dit expressément, mais
oui,
ça
c'est
va très, très vite.
C'est le temps de trajet normal quoi, pour
là,
aller
par contre,
son travail.
C'est plus rapide que ce qui existe quand même actuellement, on va dire.
Oui, voilà, là, on n'a pas encore trouvé le... Ou alors, on ne nous a pas mis au courant.
Voilà, ou alors, on n'est pas encore au courant. Alors, on consomme aussi une boisson idéale, la e-boisson, alors qui est parfaitement dosée en fructose, en nicotine, en caféine, en opiacé, en éthanol et en dérivés cannabiques.
Mais comme ça, il y a tout dedans.
Oui, ça c'est
sentir. C'est un voyage, quoi. C'est...
Alors, dans la nouvelle de Chrysostome, il y avait les coffee shops. Là, on a, voilà, dans une boisson, on a
qui,
un peu...
Qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour ne pas être ni malheureux, ni déprimé, ni... Ni anxieux, ni quoi que ce soit, quoi. C'est idéal.
Pour éviter de se poser des questions.
Voilà, aussi. Et alors, c'est une boisson, qui est absorbée directement en intradermique dans le poignet. Donc, il n'y a même pas besoin de... Voilà, on appuie sur... On fait un clignement de paupières et on a directement l'injection.
C'est une société où les mouvements sont assez limités, on va dire.
Oui, les mouvements des paupières.
Hein. Voilà.
Alors, mais, comme il y a toujours un mais dans les histoires, un jour, la vie parfaitement programmée de Burberry va se trouver perturbée par une voix. La voix d'un homme à cheveux longs et, je cite, avec une vraie gueule d'humain et qui tient une canette de bière à la main. Et alors, pour Burberry, c'est vraiment très surprenant parce qu'il croyait que tout cela n'existait plus, ni les cheveux longs, parce que tout le monde est rasé, sans barbe, et ni les canettes de bière.
Mmh. Oui, parce qu'en fait, dans ce monde, cette société est organisée en castes. Donc, c'est une espèce de mélange de classes et de castes.
Oui.
Et Burberry est un quatrième caste qui pourrait être un troisième caste.
Voilà, enfin, qui aspire à être...
S'élever dans la société.
Caste. Et donc, après, quatrième caste, c'est moins bien. Il y a, je ne sais plus jusqu'où on est descendu.
Les 5 et 6, c'est les pauvres, c'est les déclassés.
Et ensuite, il y a les déclassés. Donc là, il a l'impression d'avoir affaire à un sixième classe, voire à un déclassé, ce qui le met dans un état de terreur.
Ah oui, puis surtout quand il s'aperçoit que l'homme en question n'est pas implémenté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de transème.
Et oui.
Voilà.
Alors là, c'est vraiment le comble de l'horreur pour Burberry. Et ça lui provoque même des bugs dans son transème à lui. Hein. Il va plus voir les choses comme il les voyait avant. Et alors l'indésirable s'appelle Joe. Et donc il contacte Burberry par voie onirique, c'est-à-dire pendant son sommeil paradoxal. C'est le seul moment où il peut s'adresser à lui. Façon à...
Sans passer par le transverse.
Voilà, de façon à ce que Burberry l'entende. Et alors donc, le lecteur découvre à ce moment-là quelle est l'évolution qui a amené à ce monde qui est décrit dans cette nouvelle, avec le triomphe des multinationales sur les visées liberticides des États, et puis toute une réorganisation sociale appelée donc justement déclassification, dont tu parlais tout à l'heure, Emmanuel. Et puis avec la loi Lelay, donc là aussi, un clin d'œil, et puis donc avec ce système de caste où Burberry aimerait, ça va dans le sens décroissant, c'est-à-dire que la première 5 et 6 sont les pauvres qui touchent le CME, le crédit minimum d'existence.
Oui, voilà.
Voilà. Et puis la classe 1, c'est celle, c'est ceux qui ont le bonheur en fait, qui possèdent le bonheur, et nul ne sait combien et ni qui ils sont en fait de cette classe 1.
Oui, c'est une espèce d'entité mystérieuse qui est censée tout dominer,
qui possède
et à laquelle chacun
bonheur,
est censé
le bonheur.
Aspirer.
Voilà. Et parce que le bonheur forcément pour les autres, pour tous les autres, c'est consommer le plus possible, hein, évidemment, on l'aura compris. Hein. Et donc Joe va essayer d'entraîner pour lui, il revendique la lutte, le bonheur pour tous, et il va essayer d'entraîner Burberry donc dans cette lutte, hein, il va essayer de le faire venir avec lui.
Voilà, ils sont complices dans cette tentative de révolution.
Alors parce que dans ce monde, tout est fourni, hein, bien sûr. À chaque besoin, on fournit la réponse, tout est distillé. Et même quand on pense trop, quand par exemple les pensées de Burberry s'égarent vers les conditions justement des déclassés, il y a une alarme qui se déclenche. Quand sa femme le regarde en se disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Alors sa femme, par exemple, lui envoie un coup de sonde inquisiteur. et elle lui dit « Tout va bien » mais en silence, évidemment, parce que elle ne se parle pas, il n'y a pas de communication.
Oui, c'est totalement inutile, on peut passer par le réseau pour se parler.
Tout à fait,
ça va beaucoup plus vite.
Et lui répond par un influx, en lui envoyant un influx rassurant. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Alors évidemment, on ne va pas dévoiler on sourit beaucoup tout au long de la lecture de cette nouvelle, et on ne va pas dévoiler la fin ni la chute. Alors la chute est très surprenante, elle est excellente. Moi, j'ai vraiment adoré la chute de cette nouvelle.
Ben merci.
Merci.
Alors, cette nouvelle pleine d'humour, comme je le disais, plein de clins d'œil aussi. Hein, il y a beaucoup de... à un moment, vous parlez du Mediator, hein, le médicament, qui là est rebaptisé Medicator.
Oui, il y a plein de
petits clins d'œil.
Quelques références avec deux légères différences pour ne pas avoir de problème.
Ah bah oui, bien sûr. Et donc, j'imagine, je vais vous poser la question comme j'ai posé à Chrysostome. Vous avez dû beaucoup vous amuser à écrire cette nouvelle tous les deux.
Pas mal, oui. C'était assez agréable. C'est en fait, techniquement, c'est ce qu'on appelle une novella, c'est-à-dire une nouvelle qui va chercher dans les 50 000, 60 000 signes. Et c'est un format très agréable parce qu'on peut écrire pendant 3, 4, 5 jours la même histoire sans être, sans passer dans le chapitrage, dans une histoire qui se... Donc on écrit dans le même jet. Moi, j'aime beaucoup ça.
Encore dans le vôtre, dans la vôtre de nouvelles, il y a des petits chapitres alors que Chrysostome a fait tout d'un bloc. Mm-hmm.
Oui, mais c'est parce qu'il était dans un bar. Donc, on était à la maison de temps à autre.
Ça l'a empêché de faire des chapitres.
Le chapitrage, ça fait partie du travail à deux. Oui.
J'avais trouvé ça nécessaire parce qu'en fait, là, il y a une trame qui est relativement
complexe. Pour l'évolution,
complexe.
Oui.
Et ça simplifiait un petit peu justement.
Oui, ça permettait de recadrer un peu.
C'est vrai qu'au départ, c'est Manu qui a quand même écrit l'essentiel du premier jet. Et c'était super, mais c'était très complexe. Donc au début, on s'est dit que ça allait peut-être être un peu rebutant.
Donc c'est toi qui as un peu recadré le...
Voilà, je recadre souvent. Mais
voilà, je fais un premier jet, je
recadre
souvent
parce que il est un peu...
Oui, un petit peu impétueux, faut bien le dire.
Mais en tout cas, le résultat est aussi plaisant à lire que la nouvelle de Chrysostome. Donc, je rappelle les titres. « Du temps de cerveau disponible » de Manukos et Emmanuel Urien et « Une fellation quasi nulle » de Chrysostome Gouriot. Et je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus partager
Merci,
ce
Claire.
Moment
Merci,
à page.
Merci beaucoup.
Et... on se retrouve le 24 octobre, le vendredi 24 octobre à 15h sur Radio Occitanie. Et je parlerai cette fois de poésie avec Michel Baglin autour de son recueil « Un présent qui s'absente » publié aux éditions Bruno Doucet. Et en attendant ce rendez-vous, eh bien, bonne lecture. Merci encore à vous trois. Merci à Edgar et à Dissiatz. Poop, poop, be doop.